Bonjour, Patrice Cohen Seat, auteur de Peuple, les luttes de classe au XXIe siècle, est avec la complicité de l'UMA Café de Nantes, l'invité du magazine.
Je suis parti d'une question, à partir de la situation politique catastrophique qui existe en France et en Europe, puisque c'est une situation générale dans les pays européens, de faiblesse de la gauche, de force de la droite et de menace de plus en plus importante de l'extrême droite, je me suis posé la question de savoir comment se faisait-il que la classe ouvrière, qui était très minoritaire, disons avant le XXe siècle et même dans une grande partie du XXe siècle, ait réussi dans cette période à réaliser tant de conquêtes démocratiques et sociales, alors que les classes populaires d'aujourd'hui, c'est-à-dire notamment les ouvriers et les employés qui font plus de 50% de la population active, n'arrivent pas même à empêcher la régression sociale et démocratique qu'on connaît depuis en gros une quarantaine d'années. Donc je suis parti de ce paradoxe, au fond. Les classes populaires capables de s'organiser, qui sont devenues majoritaires, les classes populaires ont toujours été majoritaires, mais les classes populaires qui sont capables de s'organiser, classes populaires modernes, disons au sens de la modernité post-18e siècle, 19e, 20e siècle, comment ont-elles pu être si puissantes à une époque et sont aujourd'hui incapables de résister à cette régression? Et finalement, la réponse que j'apporte, si je saute tout de suite à la conclusion, c'est de constater que les conditions de la lutte de classe ont profondément changé. La situation économique et sociale, la situation de classe, le système de production, la mondialisation, la révolution numérique, les conditions d'organisation des entreprises, mais surtout, je dirais, la mondialisation, ont apporté des changements radicaux aux conditions de la lutte de classe, alors que les outils de la lutte de classe, son propre projet, sa visée, les organisations, le cadre, les luttes, sont restés dans le cadre national. C'est-à-dire qu'on a un capitalisme qui s'est profondément transformé, qui s'est mondialisé, financiarisé, qui organise sa stratégie à l'échelle mondiale et dans notre zone singulièrement à l'échelle européenne, alors que les adversaires de classe du capitalisme, et notamment les employés et les ouvriers, mais les salariés en général, à part cette mince couche de salariés qui participent en réalité des classes dominantes, sont restés organisés à une échelle nationale. Et je pense que ça, c'est une première difficulté majeure qui explique qu'au fond, les luttes soient perdantes. Puisque, qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Quand des salariés se mettent en lutte dans un des pays européens, le capital leur dit « puisque c'est comme ça, je vais ailleurs, je délocalise ». Et donc, ça crée un déséquilibre, parce que la difficulté principale, la peur principale, c'est même plus la revendication du salaire qui motive le plus, c'est la peur de perdre son travail. Et donc, c'est paralysant, et ça donne un avantage considérable au capital dans la lutte de classe. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est d'abord que le monde a considérablement changé. Il a changé de deux points de vue. Le contexte, d'abord, a été marqué par l'effondrement du projet de socialisme d'État qui avait dominé la fin du XIXe et du XXe siècle et qui s'est effondré avec la disparition des pays de type socialiste. Ça a été non seulement un choc idéologique qui a profondément démobilisé les couches salariées, mais également ça a été un choc politique. Ça a déconstruit politiquement ce autour de quoi s'était rassemblée la classe ouvrière du XIXe et du XXe siècle. C'est-à-dire que pour qu'une classe devienne un sujet collectif puissant, pour qu'elle soit capable d'agir sur le cours des choses, il faut que quelque chose la rassemble. Et ce quelque chose, qu'on appelle parfois conscience de classe, c'est un projet. Or, ce projet a montré son inefficacité, son échec, et finalement, les systèmes politiques qu'il a engendrés se sont effondrés et ont disparu. Donc ça a été un premier aspect de déconstruction de ce qui constituait cette classe et lui permettait d'agir ensemble et de se battre. Et par conséquent, ça implique la nécessité d'un nouveau projet politique que celui du socialisme d'État et un nouveau projet politique adapté au monde dans lequel nous sommes et tirant les leçons des échecs du XXe siècle. Et dans ces échecs, il y a celui du socialisme d'État ou du communisme d'État, comme on voudra dire, mais il y a aussi celui de la social-démocratie d'État, puisque l'un et l'autre ont été incapables d'apporter des réponses et de faire progresser la situation des salariés qu'elles étaient censées représenter. Et puis le deuxième aspect, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de répéter les recettes d'hier. Prenez simplement la question de l'État. Que signifie l'État ? Que signifie la propriété publique, par exemple, dans un univers mondialisé et même à l'échelle européenne ? Que signifie, quelle réponse face à la révolution numérique ? Quelle réponse face à la crise écologique ? Quelle réponse face aux bouleversements géoéconomiques du monde qui ont vu les 4/5 de l'humanité, autrefois colonisée et dominée, demander leur part du gâteau et réclamer leur place au banquet du développement ? Or, sur toutes ces questions, le capital apporte ses réponses, mais les classes dominées, les classes populaires notamment, n'apportent pas des réponses à la hauteur des enjeux, du point de vue des objectifs, mais aussi du point de vue de la façon de se battre. Quand vous regardez, par exemple, l'état des organisations représentant les classes populaires à l'échelle européenne, je ne prends que ça, parce qu'à l'échelle mondiale, ça n'existe quasiment plus, mais à l'échelle européenne, la Confédération européenne des syndicats, la CES, est quand même une organisation extrêmement peu présente. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, et c'est tout à fait prometteur et précieux qu'elle existe. Mais cependant, on ne peut pas dire qu'elle arrive à coordonner des luttes à l'échelle européenne comme il faudrait pouvoir le faire pour combattre un capital qui, lui, est organisé économiquement, politiquement, institutionnellement à cette échelle. Et si vous prenez au plan directement politique le parti de la gauche européenne, qui essaye de rassembler des forces luttant politiquement contre le néolibéralisme, ce parti est absolument inconnu dans la société. Il est connu des spécialistes, des militants extrêmement attentifs à la situation politique. Mais en réalité, il n'a pas d'influence directe sur les batailles politiques et sur le cours des choses. C'est-à-dire que, aussi bien du point de vue du projet, des objectifs pour lesquels se battre, que du point de vue des façons de se battre, il y a une révolution culturelle à faire. Et cette révolution culturelle, aujourd'hui, elle est loin d'être faite, ni même peut-être engagée. Il y a eu, et c'est pourquoi la réflexion ne devrait pas simplement être celle du Parti communiste, mais au fond de tous les partis qui entendent représenter les intérêts des classes populaires. Il n'y a pas de transformation possible et il n'y a pas même de classe sans lutte. De fait, au XIXe siècle, au XXe siècle, les luttes les plus puissantes ont été celles de la classe ouvrière. C'est ça qui, d'une certaine façon, leur a donné un rôle dirigeant. Il s'est imposé par la puissance des luttes. C'était la seule classe qui était finalement capable de faire plier le capital, de l'obliger à négocier, à faire des concessions, et qui ont permis les conquêtes qu'on a connues pendant 150 ans, pratiquement. Aujourd'hui, il y a les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que, d'une certaine façon, la société est beaucoup plus combative qu'hier. Il y a des luttes dans tous les secteurs de la société, dans toutes les catégories sociales, et sur une infinité de sujets. Les enseignants, les chercheurs, les personnels de santé sont en lutte, aussi bien que les salariés, ouvriers et employés dans les entreprises, dans la défense de leur emploi ou de leurs conditions de travail. Les artistes, les intermittents du spectacle, parfois les juges sont en lutte. C'est-à-dire que le capitalisme arrive à un stade de développement, avec sa mondialisation, sa financiarisation, qui agresse toute la société et qui suscite dans toute la société des luttes. Il n'y a plus une classe qui puisse se donner un rôle dirigeant, comme ce fut le cas de la classe ouvrière. Et pourtant, les luttes sont des luttes qui irriguent toute la société et dans tous les domaines. Ici, à Nantes, vous connaissez évidemment particulièrement le problème de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est une lutte, à mon avis, emblématique de l'époque contemporaine, parce que c'est une lutte qui, au fond, pose la question d'une autre forme d'économie, d'une autre forme de culture, d'une autre forme même de façon de vivre, de civilisation. Et ces luttes, elles ne sont pas réservées à une classe. Elles sont de catégories sociales extrêmement diverses. Et ces catégories sociales extrêmement diverses sont en lutte. C'est donc des catégories très diverses qu'il s'agit de rassembler. Et de rassembler par un projet, une nouvelle fois, un projet adapté au monde contemporain et tirant les leçons du passé. Et par conséquent, il faut arriver à construire ce projet, non pas autour d'une seule vision des choses, qui serait celle d'une classe sociale donnée, mais en le fabriquant à partir de la diversité des catégories sociales, des objets de lutte, des revendications, parce qu'évidemment, partir de quelque chose qui ne fait pas l'objet d'un mouvement dans la société, ce serait, comme toujours dans l'histoire, complètement absurde. C'est en s'appuyant sur les mouvements propres de la société qu'on peut espérer construire quelque chose. Et donc là, on a une nouvelle révolution culturelle à faire, alors là, dans l'ordre politique, au sens large du terme. C'est-à-dire que là où le fait qu'une classe avait un rôle dirigeant autorisé, que l'appareillage, les organisations politiques ou syndicales soient des organisations centralisées, verticales, ayant pour effet, au fond, de communiquer dans l'ensemble de la société les intérêts d'une classe et la vision de la société de cette classe, il faut réussir à rassembler des catégories sociales diverses, porteurs de préoccupations, de luttes, de revendications diverses, il faut arriver à les rassembler dans un projet commun. Et là, l'organisation verticale et centralisée ne fonctionne plus. C'est plutôt l'organisation en réseau, et même en réseau de réseaux. C'est le fait d'arriver à fabriquer du commun à partir de la diversité, et non plus d'imposer un seul point de vue, qui peut permettre de rassembler ces différentes catégories sociales dans un projet qui leur permette de lutter ensemble contre leur adversaire commun, qui est aujourd'hui, comme hier d'ailleurs à mon avis, le capitalisme. Mais dans les conditions d'aujourd'hui, ça veut dire une transformation des formes politiques, une transformation des partis, une transformation des conceptions stratégiques. Je parlais d'un autre aspect de la stratégie, qui était la nécessité d'arriver à se rassembler à l'échelle européenne. C'est aussi une question de rassemblement dans la diversité, parce que de même que les ouvriers, les employés, même au sein des ouvriers, avec l'immense diversification qu'il y a des statuts et des métiers, mais des employés, des professions intermédiaires, il faut rassembler la diversité, mais il faut arriver à la rassembler aussi jusqu'au niveau européen, sous peine, comme je le disais tout à l'heure, de devenir impuissant face à la stratégie du capital qui consiste à aller d'un pays à l'autre et d'un endroit à l'autre en fonction des résistances qu'il rencontre sur son chemin.
On a un exemple d'employé d'un hôtel à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ce film On a grévé, qui montre qu'une lutte fait fléchir un groupe détenu par un fonds de pension. Parce que derrière, il y avait une solidarité, il y avait l'institution d'une caisse de grève qui était soutenue par un syndicat, entre autres, c'était la CGT.
Votre exemple est très bon, parce qu'il illustre le fait que les luttes peuvent être payantes, mais elles peuvent être payantes à condition de déjouer le piège, au fond, le piège de la mondialisation, de la mobilité du capital. L'exemple que vous prenez est un exemple d'une lutte dans une activité qu'on appelle non délocalisable. C'est-à-dire que l'hôtel, il est là. Il est destiné à recevoir des gens en France, à Paris ou ailleurs. Et qu'il soit possédé par un fonds de placement chinois ou américain ou français, de toute façon, l'hôtel, lui, ne bougera pas. Et donc, dans ce cadre, les luttes sont tout à fait possibles, parce que là, il y a un rapport de force qui se crée. Ils ne peuvent pas dire, je délocalise mon hôtel et je l'emmène en Chine ou au Bangladesh. Ils sont obligés de composer avec les forces qu'il y a là. Et si ces forces arrivent à se rassembler, le rapport de force peut parfaitement réussir à être gagnant. Mais le problème, c'est que, parce qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé des luttes de façon générale, en disant qu'elle n'arrivait pas à s'opposer réellement au capital, en fait, c'est une formule condensée. Il y a beaucoup de luttes d'entreprise qui sont parfois gagnantes. Là où les luttes sont impuissantes, c'est quand elles portent sur l'organisation de la société. C'est quand elles portent sur la structure politico-sociale de la société. Par exemple, regardez les retraites. Il y a eu des millions et des millions, on a compté 7 millions de personnes dans la rue au moment de la lutte contre la réforme des retraites, et ça n'a pas empêché la réforme des retraites. Regardez les services publics et les privatisations. Regardez, au fond, tous ces éléments qui structurent une société, son cadre économique et social, et qui, aujourd'hui, produit à la fois le chômage, la précarité, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où il peut à la fois y avoir des luttes gagnantes comme celle dont vous prenez l'exemple, mais où, dans le rapport de force global de classe et dans l'affrontement de classe, le rapport de force est extrêmement défavorable pour les classes populaires et les classes dominées en général.
Patrice Cohen-Séat, auteur de Peuple, les luttes de classe au XXIe siècle, est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes, l'invité du magazine. l'hôtel reste sur place, le personnel, on peut l'importer.
C'est vrai, et le capital en général, le patronat, voudrait absolument pouvoir faire ça absolument librement. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. Il a déjà réussi à conquérir ce droit, parfois de façon illégale, avec des détachés bidons ou des faux détachés ou des détachés tout court. Mais ce n'est pas quelque chose qui est aussi simple. S'il arrivait à le faire, s'il réussissait à pouvoir se donner le droit, avoir le droit de faire venir dans les mêmes conditions de qualification, d'employabilité, comme dit M. Gattaz aujourd'hui, des salariés sous-payés en France, il le ferait. Il y a encore une lutte de classe importante, heureusement, dans un pays comme le nôtre, et toutes les digues n'ont pas encore sauté, mais elles ont beaucoup reculé. Et je pense que nous n'arriverons à empêcher la poursuite du recul qu'en transformant les fondements mêmes de la lutte de classe du côté des classes dominées.
Comment on peut rassembler ?
Eh bien, c'est toute la difficulté, mais je pense qu'il y a des...
J'essaye de me rapprocher un peu de choses concrètes pour qu'on puisse se projeter. Quoi. Je pense que c'est parlant, c'est fédérateur. Parce que là, on est dans les intentions. Et voilà, il faudrait, mais qu'est-ce qu'on propose ?
Non, mais attendez, distinguons. Je pense que parler des moyens de la lutte, c'est pas parler de choses vagues et générales. Vous savez, il y a un grand philosophe qui s'appelait Gramsci, italien, et qui disait la distinction entre ce qu'il appelait guerre de position et guerre de mouvement. Il disait, il y a des moments où les classes dominées, la classe ouvrière, peut se poser la question de la conquête du pouvoir. Et puis des moments où les classes dominées, si elles veulent, on était, quand il écrivait cela, quelques décennies à peine après la Commune, quelques années après la Révolution d'octobre, où il disait, il y a des moments où les classes populaires, si elles se posent la question du pouvoir, elles vont au massacre et à l'échec. Et donc, il disait, dans ces cas-là, il faut qu'elles se donnent l'objectif de guerre de position. C'est-à-dire qu'il y a des questions stratégiques qui sont très importantes. C'est celles dont on vient de parler. Après, il y a les questions de contenu sur lesquelles vous m'interrogez maintenant. C'est-à-dire, autour de quel projet peut-on imaginer ? D'abord, un projet, c'est non seulement des objectifs, mais c'est également les moyens d'y tendre. Ça inclut la stratégie. Parce que personne ne lutte pour rien. On lutte pour gagner. On lutte si on pense que ça peut déboucher sur quelque chose. Si on ne pense pas que ça peut déboucher sur quelque chose, on ne lutte pas par principe. Ou alors c'est le cas de quelques héros non quichotesques. Il faut donc créer les conditions de lutte gagnante. Donc les moyens et la stratégie, c'est vraiment une question de première importance. Maintenant, sur les contenus, je crois que la critique du capitalisme, elle est d'une certaine façon dans beaucoup d'esprits. Sinon dans tous les esprits. D'ailleurs, je constate que même au sein du capitalisme, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'il est en train de se suicider, il est devenu fou. Et parmi les voix les plus autorisées en la matière. Mais on voit bien que l'argent roi, comme on dit, la finance, domine, écrase les sociétés. Cette critique, elle est très générale. Bon, ça, c'est un premier élément. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui manque le plus, c'est le projet positif d'alternative. Or, de ce point de vue-là, il y a effectivement des idées qui émergent dans les luttes elles-mêmes. Par exemple, sur la substitution, on a eu l'époque de l'étatisation de l'économie, il y a eu autour de 68 la grande idée d'autogestion, il y a aujourd'hui l'idée de prise en main par les salariés eux-mêmes, sous forme coopérative, de la production, ce qui existe, ce qui renvoie déjà à des expériences concrètes. Il y a également une autre critique qui avance énormément, c'est la critique du productivisme-consumérisme. Est-ce que la vie est faite pour se tuer au travail afin de consommer ? Est-ce qu'on n'est pas en train, ce faisant, non seulement de détruire les hommes, de détruire les salariés, mais de détruire la planète et la nature ? Est-ce que, au fond, l'objectif de bien vivre ne serait pas plus important que l'objectif de produire à tout prix et de produire de plus en plus ? Ce qui ne veut pas dire de ne pas se soucier de satisfaire les besoins, mais peut-être de voir quels sont les besoins qui ont besoin d'être satisfaits et ceux qui correspondent en réalité à une folle course en avant dans laquelle seul le capital finit par gagner quelque chose avec les profits. Cette idée de bien vivre, par exemple, elle vient d'une certaine façon révolutionner la façon de réfléchir à ce qu'on appelle la croissance ou plutôt au développement. on en vient à se poser la question de savoir quels sont les besoins, par exemple, et où, par conséquent, on sort des logiques productives du capitalisme pour entrer dans un autre type d'interrogation. Par exemple, où le seul critère n'est pas celui de la croissance du PIB, où on se pose d'autres questions sur ce que c'est que bien vivre, notamment. Alors, ces questions, des questions sur la démocratie, là aussi, on est dans une situation où le moins qu'on puisse dire, c'est que le système politique est repoussé par une immense majorité des citoyens. C'est quelque chose qui leur est commun. Ils en rient lorsqu'ils ne sont pas en rage. On voit bien que cette démocratie qui a été imaginée à la fin du XVIIIe siècle, qui s'est développée au XIXe siècle, en même temps que le capitalisme d'ailleurs, est une démocratie qui est à bout de souffle, qui fait rire ou qui met en colère parce qu'elle paraît ne plus servir à rien. Bon. Il y a là une révolution démocratique à faire avec, à mon sens, un transfert massif des pouvoirs du système politique lui-même, c'est-à-dire de ce qui est extérieur à ce que certains appellent la société civile aux citoyens eux-mêmes. Ça implique, je reviens sur la question des partis, ça implique aussi que la forme des partis change. Aujourd'hui, les partis sont considérés comme des objets extérieurs. Ils sont déconsidérés. Je crois qu'ils sont déconsidérés parce qu'ils appartiennent à un système qui prive les citoyens de leur volonté d'intervenir, de participer, d'être entendus, de participer à l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire des décisions et de leur mise en œuvre. Voilà des éléments de projet. Il y en aurait beaucoup d'autres, évidemment, à prendre en compte. Mais si on met bout à bout, construire une société du bien-vivre et non pas une société qui vise le profit par la productivité maximum à tout instant et la compétition entre les êtres humains, les systèmes sociaux et les peuples. Si on parle d'une autre Europe qui, elle aussi, ne serait pas fondée sur la compétition entre les peuples, le moins-disant social et ce qu'on appelle la concurrence libre et non faussée. Si on envisage la nouvelle révolution démocratique à faire, au fond, il y a eu au XVIIIe, XIXe siècle une révolution démocratique qui a placé la question de l'égalité au centre du système politique. On voit bien qu'aujourd'hui, on est au bout de cette phase-là, qu'il faut inventer autre chose. Voilà des éléments de projet sur lesquels beaucoup de catégories sociales pourraient se rassembler. Après, le problème est que ces catégories sociales ont aussi leurs spécificités, leurs revendications propres, leurs préoccupations propres, et qu'il y a là des différences. Je crois qu'il faut inventer, ça fait partie de la révolution démocratique à faire, il faut inventer un système qui permette de rassembler les classes populaires autour de ce qui leur est commun, en respectant leurs différences. C'est la seule façon de les rassembler aujourd'hui. Et par conséquent, il faut trouver, y compris dans le système politique, dans les partis qui veulent aujourd'hui représenter les classes populaires, il faut trouver la façon de vivre en faisant grandir ce commun, en respectant les différences, et pourtant, quand il le faut, en sachant trouver l'unité nécessaire. Unité sur un programme, unité sur une candidature. Je pense que là aussi, il faut faire confiance aux citoyens, et il faut que les partis acceptent, et d'ailleurs sinon ils en mourront, de restituer aux citoyens une part des prérogatives qu'ils sont seuls aujourd'hui à avoir. Pour les candidatures, je pense que ce sont les partis qui décident des candidatures aujourd'hui. On voit le plus grand mal qu'ils ont à s'entendre, et notamment à gauche de la gauche, comme on dit, et du côté de la gauche qu'on appelle radicale ou d'alternative. C'est un émiettement qui a produit la catastrophe de 2007 et qui pourrait produire une nouvelle catastrophe en 2017. Il faut inventer quelque chose, et il faut inventer quelque chose dont les citoyens soient le centre. C'est-à-dire que là où les partis, quand ils essayent de se rassembler sous forme de cartel, n'arrivent pas à s'entendre, il faut que ce soit les citoyens qui aient la capacité de débloquer la situation.
Je prends un exemple, retour en arrière, 1965, SFIO et le Parti communiste se détestent, et pourtant, ils vont soutenir le candidat commun, François Mitterrand, contre le général de Gaulle. Et François Mitterrand va être qualifié pour le second tour. C'est impossible aujourd'hui ?
Non mais attendez, dans la gauche, aujourd'hui, et il faut bien constater qu'une partie de la gauche s'est alignée sur le projet néolibéral de la droite. Bon, c'est pas une identité absolue en tout point entre la droite et le Parti socialiste, disons, en France, et la social-démocratie, pour parler à l'échelle européenne. Mais malgré tout, une grande partie du projet politique de la social-démocratie s'est ralliée à la conception néolibérale. Donc, la gauche a un problème majeur. C'est d'ailleurs pour ça que l'idée de gauche est discutée. On se dit, mais peut-on encore parler de la gauche ? Certains, par exemple, proposent de parler plutôt du peuple que de parler de la gauche. Moi, je crois que c'est une question redoutable à laquelle, là aussi, il faut trouver une solution. Parce qu'il y a deux réalités. La première, c'est qu'effectivement, la social-démocratie s'est ralliée du point de vue économique et social, et même maintenant, d'un point de vue sociétal sur les questions sécuritaires, s'est ralliée à la conception néolibérale. Et de ce point de vue-là, ça veut dire qu'il y a la ligne de clivage ne se situe pas entre les forces de gauche et la droite, mais à l'intérieur même des forces de gauche. Et je pense que si les forces de gauche qui entendent représenter les couches populaires, les classes populaires, ne se battent pas contre tout ce qui tire la social-démocratie vers le néolibéralisme, il n'y aura pas de solution au problème politique qui est aujourd'hui posé aux classes populaires. Mais d'un autre côté, c'est le deuxième aspect, il ne faut pas se tromper d'ennemi de classe. Le capital est de droite. Et les classes sociales, les catégories sociales qui se sentent représentées par la social-démocratie, et en France le Parti socialiste, ont vocation à s'allier avec les classes populaires. Et par conséquent, ces catégories sociales ne sont pas des adversaires, mais des esprits à conquérir, des forces sociales à rassembler. Et c'est là que se situe la difficulté. Autant je pense qu'il faut combattre sans la moindre concession et en se donnant les moyens politiques, la dérive sociale-libérale de la social-démocratie et en France donc du Parti socialiste, autant je crois qu'il faut conserver l'idée de gauche qui, historiquement, est le cadre dans lequel s'opère le rassemblement entre des catégories sociales diverses, classe populaire, classe ouvrière hier, classe populaire au sens plus large aujourd'hui, catégories intermédiaires, qui ont vocation à se rassembler et qui se rassemblent au fond autour de l'idée d'égalité. Et la notion de gauche renvoie dans l'histoire à l'idée d'égalité, et de ce point de vue-là, elle demeure précieuse. Il y a donc une difficulté réelle. Il faut à la fois manier la lutte contre la dérive néolibérale de la social-démocratie aujourd'hui. C'est un danger extrême. Elle est d'ailleurs largement accomplie. Et en même temps, se battre pour le rassemblement de catégories sociales différentes. Je reviens au point précédent, qui n'ont pas toutes les mêmes références et qui ne peuvent pas donc porter tout exactement le même drapeau, mais peuvent se rassembler dans le cadre de ce qu'on appelle historiquement la gauche. Alors, est-ce que la notion de gauche sera suffisante pour qualifier ce rassemblement à construire? Je ne sais pas. Par exemple, aujourd'hui encore, après plusieurs décennies de présence de l'écologie politique, on ne dit pas la gauche, on dit la gauche et les Verts. Et donc on fait une distinction entre ces deux courants. Et peut-être faut-il multiplier les exemples. Il y a dans le mouvement féministe, dans le mouvement libertaire, dans d'autres mouvements, dans les mouvements de lutte pour les réfugiés, etc., il y a des gens qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas ou plus dans l'idée de gauche. Donc peut-être que l'histoire fera émerger un concept plus large que celui de gauche. Mais il n'empêche que le rassemblement de toutes les catégories qui ont en commun de poser la question de l'égalité dans la société est un produit très précieux de l'histoire qu'il serait très dangereux de perdre.
D'un point de vue plus personnel, parce que vous accompagnez le Parti communiste depuis de nombreuses années, comment ça se passe dans votre tête, parce que vous ne raisonniez pas comme ça, en première heure de votre engagement ?
C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai adhéré au Parti communiste malgré l'Union soviétique. C'est-à-dire que pour moi, la question des libertés et des droits de l'homme était cruciale. Et je me suis battu dans mon parti pour que la critique du soviétisme, au-delà même du stalinisme, soit au centre d'une transformation de ce parti. Mais pour le reste, j'avais l'impression qu'il y avait là un projet qui tenait la route et que le problème était dans la stratégie et dans le rassemblement. Et je me suis rendu compte, après le double échec extrême de 2002 et de 2007, qu'il y avait un problème beaucoup plus profond et que ce problème était celui d'une véritable révolution culturelle à faire, c'est pour ça que j'ai employé plusieurs fois cette expression tout à l'heure, d'une véritable révolution culturelle à faire pour être capable de mener les luttes nécessaires dans les conditions d'aujourd'hui. Donc, je suis toujours communiste.
Patrice Cohen-Séat, auteur de Peuple, les luttes de classe au XXIe siècle, est avec la complicité de l'Huma Café de Nantes, l'invité du magazine.
Membre du Parti communiste. Parce que où irais-je sinon ? J'estime qu'il est indispensable, la lutte solitaire, la lutte des idées peut être solitaire, mais la lutte politique, la lutte sociale n'existe que dans la mesure où elle est collective. Et je trouve encore aujourd'hui dans le Parti communiste un lieu collectif qui est, disons, le plus proche de ce qui me paraît nécessaire. En tout cas, dans le fait que le Parti communiste est un parti qui comporte encore des dizaines de milliers d'adhérents. Du côté des idées qui sont les miennes, il n'y a pas de force plus importante en France aujourd'hui, de force organisée. Maintenant, je passe mon temps à dire, depuis maintenant près de 10 ans, qu'il faut que ce parti se métamorphose, c'est-à-dire qu'il se transforme très profondément, évidemment en renvoyant aux idées qu'on a évoquées tout à l'heure, qu'il se métamorphose du point de vue de son projet, qu'il se métamorphose du point de vue de sa stratégie. Et là, je dois avouer que je suis en échec. J'ai d'ailleurs quitté la direction de ce parti parce que je n'arrivais pas à être entendu et que le chemin qui était pris ne me paraissait pas aller dans la bonne direction. On en est toujours là, mais je continue de me battre pour que ce parti se métamorphose. C'est, à mon avis, s'il veut survivre, sinon quelque chose d'autre en prendra la place, une nécessité absolue.
Merci à Patrice Cohen-Séat, auteur de « Peuple, les luttes de classe au XXIe siècle », pour sa libre participation à ce magazine réalisé avec la complicité de l'UMA Café de Nantes.